Alors, nous continuons donc dans l'Ikouté Moharan et nous sommes à une nouvelle Torah, la Torah Yud, qui s'appelle, comme par hasard, Ve'ele Amishpatim, ma chère Tassim Lifnehem. Il est intéressant d'ailleurs de voir qu'il y a probablement un rapport avec la lecture des parachiotes, étant donné que la Torah précédente parlait d'un verset de Shirat Hayam, du cantique de. Qu'est-ce qui se passe là?
Ah,
Du
on ne voit
cantique.
plus, hein.
Ah oui, bizarre, bizarre.
Découpez votre caméra.
Ah oui, bizarre, bizarre. Attendez, attendez une seconde. On va essayer de revoir ça. Une seconde. Et là, voilà. Non. Là, c'est bon? Voilà. Bon.
Génial.
La Torah précédente parlait d'un verset du Cantique de la Mer Rouge que nous avons lu dans Béchalar. Là, ça va être, il est question d'un verset dans Parashat Mishpatim. Et il est également question au passage de la Megillat Esther, puisque c'est à proximité de Pourim. Donc on voit que ça a été organisé plus ou moins autour de la lecture des parachiotes. Et nous y allons. Donc, Ve'ele Amishpatim, ma chère Tassim Lifnehem, c'est voici les lois que tu mettras, que tu leur présenteras, tu présenteras devant eux. Et là, il y a tout un principe dans le Aleph. C'est une phrase bien connue de Rabbi Nachman, que Shiesh Chas Veshalom Dinim al Israël, lorsqu'il y a, que Dieu nous préserve de la rigueur contre Israël, il y a donc des accusations contre Israël, al yedei rikudim ve'amchat, kaf el kaf, na'asam takata dinim. C'est avec les danses et en frappant des mains que s'adoucissent les rigueurs. Voilà. Bon. Alors, vous voyez pourquoi est-ce que les chassidim de Breslav sont danseurs, et frappe des mains de manière un peu d'ailleurs exhibitionniste, un peu même parfois exagérée. Mais en tout cas, c'est le principe de Rabbi Nachman, c'est que la danse et frapper des mains, tout cela adoucit la rigueur contre Israël. Alors, qu'est-ce que ça a à voir? En principe, la force d'Israël, c'est la Torah. Mais il y a également une autre force de la Torah, c'est la joie. On pourrait dire que d'une certaine manière, la Torah, c'est ce qui vient d'en haut, la joie, c'est ce qui vient d'en bas. Et on va voir par la suite d'ailleurs que Rabbi Nachman parle également de la Torah. Et là, l'essentiel de son enseignement sera sur la joie. Comment est-ce que la joie se communique dans l'ensemble de la personne et que, à partir de ce moment-là, il y a un adoucissement des dynimes. On va le voir par la suite. Rappelons simplement une chose importante. La danse se fait avec les jambes et frapper des mains se fait avec les bras. C'est-à-dire que si vous prenez le corps humain, vous avez deux prolongements qui sont les mains et les pieds. Et quand tout cela s'agite, il y a, vous voulez, une sorte de flux énergétique qui remplit l'ensemble de la personne. Qu'en est-il de la tête? Eh bien, la tête, c'est elle qui reçoit la Torah. Et là, à nouveau, une autre note de Rabbi Nachman, qui a priori n'a rien à voir, mais qui est également centrale dans son enseignement, c'est le bet, qui ikar gedulato shel HaKadosh Baruch Hu, ou shegam hagoyim yed'u shesh Elohim shalit u'moshel. L'essentiel de la grandeur du Saint béni soit-il, c'est lorsque les nations savent qu'il y a un Dieu qui gouverne tout. Kamouva bazoar, ainsi qu'il est dit dans le Zohar, Kad ata Yitro ve'amar, lorsque Yitro est venu et qu'il a dit, Ki ata yadati ki gadol Hashem mikol Elohim, maintenant je sais que Dieu est plus grand que tous les dieux, Kden ityekar vit'alashmaïla, c'est alors que c'est glorifié et c'est élevé le nom suprême. C'est-à-dire, il y a chez Rabbi Nachman une préoccupation permanente de l'universel. L'universel, non pas simplement par fraternité humaniste, mais également parce que il y a un intérêt divin à ce que Dieu soit connu dans l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire, le travail que nous faisons à Brit Olam, par exemple, qui s'occupe des Noachides, concerne également les Chassidim de Breslav. Il y a des activités orienté vers les goyim chez plusieurs chassidim de Breslav, entre autres le Rav Arouch. Donc vous voyez que, en tout cas, Rabbi Nachman a une vision extrêmement vaste des choses. Il parle d'une part d'éliminer d'inim qu'il y a les rigueurs contre Israël, et conjointement à cela, il se préoccupe du devenir de l'humanité. Velagoim, il y a écrit Akum. Akum, ça veut dire Ovde Kochavim ou Mazalot, c'est pour des raisons de censure, parfois intérieure, parfois à cause de l'extérieur, on évitait d'imprimer le mot goyim. Le mot goyim était considéré comme péjoratif, alors, parce que souvent d'ailleurs les textes disent des choses pas très belles sur les goyim, alors l'habitude était de mettre akum, c'est-à-dire les adorateurs des étoiles, ovde kochavim ou mazalot, comme ça les chrétiens et ne se sentaient pas concernés. Mais en fait, il faut lire non pas Akum, il faut lire Goyim. Vela Goyim yefchar leidag dulatosh el Hakadosh Baruch Hu ki im alide bechinat Yaakov. Les Goyim ne peuvent connaître la grandeur de Dieu que à travers l'identité de Yaakov. Que Moshe Katuv, ainsi qu'il est dit dans le livre de Yeshayahu, Bet Yaakov lechu venelcha beor Hashem, maison de Jacob, allons à la lumière de Dieu. Je rappelle que ce verset est écrit juste après la vision du prophète qui dit que viendra un temps où les goyim iront à la montagne de l'Éternel pour demander ses enseignements. Et juste après cette description grandiose, le verset nous dit « Bet Yaakov », la maison de Jacob. C'est-à-dire que, alors qu'on a l'habitude de penser que le plus universel des avot, c'est Abraham, et tandis que Yitzhak et Yaakov se concentreraient plus dans le domaine de la nation d'Israël uniquement, eh bien on voit que c'est exactement le contraire. C'est justement à travers la notion de Yaakov que les goyim ont un lien avec le Dieu d'Israël. Pourquoi? Ki hu gila elohuto shel HaKadosh Baruch Hu yoter mishe'ar ha'avot. Parce qu'il a révélé la divinité de Dieu plus que tous les autres patriarches. Comment cela? Qui Abraham Keraoha, parce que Abraham l'a appelé montagne. Vitzrak Kerao Sade, et Yitzhak l'a appelé champ. Vesade ou Yoter Moussak Vinitzrak Laola Mehar. Or, un champ est plus accessible et plus nécessaire au monde qu'une montagne. Veyaakov Kerao Bait, et Yaakov l'a appelé maison. Qui est un lieu d'habitation pour les hommes plus que le champ. Haïnu, c'est-à-dire, chez Yaakov, karait mekom abet amikdash, shu mekom atefila bait. Yaakov est celui qui a appelé le lieu du bet amikdash, qui est le lieu de la prière, maison. Shu mekom yishuv bene adam, qui est le lieu où habitent les hommes, qui est là. Et Tatefila, Mehar Vesade Librinat Bait, il a élevé la prière de la dimension montagne ou champ, Librinat Bait, à la dimension de maison, chez Eshbo Tfisa Livna Adam Yoter Mehar Vesade, qui est plus accessible aux hommes qu'une montagne ou qu'un champ, Kibrinat Bait Yeshgam, Librinat Bait Yeshgam la Gonim Asaga. Et parce que pour ce qui est de la maison, les goyim également y accèdent. Que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, Ki beti betefilat, ma maison sera une maison, yikare lechol ha'amim, pour toutes les nations. Pour Shubifrinat Baïd, et lorsque le nom de Dieu est reconnu comme maison, Keden, c'est alors, itekar shmaïla kanal, c'est alors que se glorifie le nom suprême, comme nous l'avons dit. Alors ici, on explique un peu ce que ça veut dire, avant de passer à la prochaine colonne, ça va trop vite. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, on a l'habitude de penser que, pour les goyim, la connaissance de Dieu passe par une contemplation de la nature. C'est-à-dire, on contemple la montagne, on contemple les champs, on est en admiration devant le monde de Dieu, et c'est comme ça que l'on connaît Dieu. Mais c'est une erreur, parce que ça, c'est justement l'intuition paganiste. C'est-à-dire, les païens ont ce sentiment de connaissance de la divinité à travers la nature. Et c'est la raison pour laquelle ils divinisent la nature, ce qui est le fondement de l'idolâtrie. Tandis que, quand il s'agit de connaître à travers un lieu humain, c'est-à-dire la maison, C'est alors que l'on commence à connaître ce qui transcende la nature. À travers l'humain, on passe au moral. Le moral nous fait rencontrer le créateur du monde. Et donc ce café Yaakov, justement, il a créé ce cadre qui est le peuple d'Israël en tant que maison de Dieu, c'est-à-dire la maison dans laquelle les nations peuvent se reconnaître. Donc, contrairement à l'idée que la connaissance du Créateur passerait par une contemplation de la nature, pour Rabbi Nachman, c'est très simple, ça passe par un lieu de culte. Et ce lieu de culte idéal étant le Beth Amikdash, c'est là qu'il y a un rayonnement universel. D'ailleurs, je me rappelle avoir lu il y a quelques années un texte sur Internet d'un chrétien qui, tout en sympathisant le peuple juif, a écrit quand même « Si un jour les Juifs reconstruisaient le temple à Jérusalem, alors ils s'attireraient l'animosité des nations. » Alors je lui suis rentré dedans, je lui ai expliqué qu'il n'y a aucune raison que les goïms aient une animosité parce que les Juifs construisent leur propre temple. Et après ces remontrances, il a passé tout un processus qui l'a amené à être Ben Noir. Je pense donc que c'est important de dire ça au goïm. Voilà, donc si je reviens sur ce que nous avons dit, je reprends depuis le début, ça veut dire qu'il faut, quand il y a des dinim, de la rigueur contre Israël, il faut la danse et frapper des mains, et il faut également que le nom de Dieu soit connu chez les nations. Et la manière pour les nations de connaître Dieu, c'est à travers la dimension Yaakov qui est appelée maison. Et là, nous continuons sans crainte dans la prochaine colonne. D'ailleurs, David va nous amener le texte. Le voilà, très très bien. Vezé Perouche, c'est ce que veut dire le verset. Gadol Hashem Umehulal Meod, que grand est Dieu. Il est beaucoup loué. Klomar et Mata et Gadol Hashem, quand est-ce que Dieu est grand? Keshu Mehulal Meod, quand il est beaucoup loué. Ça veut dire être beaucoup loué. Misitra Demota Shubhinat Goim. C'est quand cela vient du côté de la mort qui est la dimension des nations. Alors, ici, on comprend. C'est quoi le côté de la mort? À nouveau, vous avez des expressions qui sont assez péjoratives envers les goïms, mais il faut prendre ça de manière très sérieuse. Ça veut dire que l'arbre de vie, le côté de la vie, la rencontre de Dieu à travers la vie, c'est en Israël. Et ce qui est autour est appelé la mort relativement. C'est-à-dire quand, jusque dans les extrémités du monde de la mort, c'est-à-dire là où se trouve l'humanité actuellement, c'est là que l'on loue Dieu, alors ce côté de la mort devient le côté de la vie. Comme l'ont dit nos sages, Al-Pasuk Vine Tov Mod sur le verset, et c'était très bien, Me'od, Zemalach Amavet. Le mot Me'od veut dire la mort. C'est peut-être un problème de prononciation. Vous savez que les germanophones ne peuvent pas dire le mot Me'od, ils disent Mot, Mot. Et donc, ça ressemble au mot mot qui veut dire la mort. Keshumoulal mehem, levakashak odarav. Il me semble que Beth Yaakov, Rachid dit que Hachem s'adresse aux femmes. Attendez. Aux femmes d'Israël qui construisent par l'éducation des bénis Israël. C'est absolument vrai pour le passage dans le livre de Shemot, dans la paracha de Yitro. Mais là, nous parlons du passage dans Yeshayahu. C'est pas la même chose exactement. C'est-à-dire, là-bas, c'est dans le contexte de Taged Livne Israël, tu raconteras aux fils d'Israël, donc Bet Yaakov, c'est pas les fils, c'est donc les filles. Mais là, rien ne le dit dans le livre de Yeshayahu. Bon, où en étions-nous? Keshehu Meulal Mehem, lorsqu'il est loué même par eux, Azai hu gadol ki hu ikar gedulato, c'est alors qu'il est grand parce que c'est l'essentiel de sa grandeur. C'est-à-dire que les goïms ont une connaissance de Dieu comme étant, on peut dire à la limite, un Dieu mort. C'est ce qui se passe par exemple dans le christianisme. Le christianisme révère le divin à travers la conscience qu'un Dieu a été mis à mort. Ce qui est absolument absurde pour des juifs et tout à fait logique pour des chrétiens. Et donc, quand même de là-bas vient la louange du Dieu vivant, c'est alors que Dieu est grandi. Et quand est-ce qu'il est loué par eux? Ça, c'est la suite du verset. Be'ir Elohenu har kodesho, dans la maison, dans la ville de notre Dieu, dans sa sainte montagne. De'ainu, c'est-à-dire que shebichinat har naasa ir Elohenu, c'est-à-dire lorsque la montagne devient ville de notre Dieu, shu yishu bnei Adam, qui est le lieu de l'habitation des hommes, bichinat ba'it, à la manière d'une maison, shu musag yoter mehar vesade, qui est plus accessible que la montagne et le champ. De'ainu, c'est-à-dire que shema'alin et bichinat atefila mi bichinat har bichinat ir ba'it, c'est lorsque l'on élève la prière de la dimension de montagne à la dimension de ville et maison, chez Az Yeshgam Lagoim Asaga Kanal, parce que ça devient accessible également pour les nations, Az Daika Gadol Hashem, c'est alors que Dieu est grand, qui Zeikar Gedulato Itbarar, c'est l'essentiel de sa grandeur, béni soit-il, que chez Gam Arechokim Yodim Imenu Itbarar Kanal, quand même lorsque ceux qui sont éloignés connaissent. Le reconnaissent, comme nous l'avons dit. Alors, juste, donc, on a compris donc, que pour que les goïms puissent accéder à la dimension, à la connaissance de Dieu, il faut que la prière soit dans la dimension de baït, c'est-à-dire passer de montagne et de champ à la maison. Comment le fait-on? Alors, il dit, c'est très simple. Cette façon d'élever la prière de montagne et champ à la dimension de maison, Bechinat ir Elohenu, c'est-à-dire, comme il est dit, la ville de notre Dieu, Kedesh itgale malchuto gam lagoim, pour que sa royauté soit connue également chez les nations, Shielaem gam kenasaga belauto ibar shemo, qu'ils aient une manière de le connaître, de connaître sa divinité, Iefchar lehe asot, cela ne peut se faire qu'im alide tzadike ador. Ça ne peut se faire que par le biais des justes de la génération. Alors ça me rappelle une histoire. Vous savez que le Rav Kook a écrit un petit livre du nom de Eder Haïkar à la mémoire de son beau-père. Son beau-père, c'était le Aderet, le Rav Eliyahu David Rabinovitch Teumim, qui était donc son beau-père et qui est devenu à la fin de sa vie grand rabbin de Jérusalem à l'époque des Turcs. Et le Rav Kook a décrit en quelque chose comme une trentaine de pages la personnalité de son beau-père. Et il le représentait comme étant un personnage rayonnant qui, disons par l'illumination qu'il donnait, aussi bien au niveau de l'étude qu'au niveau de la personnalité, rendait les gens, attirait les gens à la Torah. Et le Rav Kook raconte qu'un jour, il a rencontré un personnage de haut niveau qui s'était converti au judaïsme. Et le Rav Kook lui demande « Comment es-tu arrivé à la conclusion qu'il fallait se convertir au judaïsme ?» Il a dit « Parce que j'ai lu ce que tu as écrit de ton beau-père. J'étais tellement impressionné par la personnalité de ce tzaddik que je me suis dit « Une nation qui est capable de produire des gens de cette dimension méritent que l'on s'y attache. » Et donc, c'est ce que dit ici le Rabbi Nachman, pour que les goïms aient un sentiment de rapprochement du Dieu d'Israël, il faut qu'ils connaissent les tzadikim. « Kemo shamu chachamenu zichronam livracha » comme l'ont dit nos sages. « Mi sheyesh lo chole betor beto » celui qui est un malade dans sa maison, « yelech etzel chacham yivakesh alav chachamim » doit se rendre chez un sage pour qu'il demande la miséricorde de Dieu. Ki aikara tefila, car l'essentiel de la prière, enam yodim kim tzadike ador, n'est connu que par les tzadikim de la génération. Alors là, j'ai une petite remarque, une seconde. C'est une réduction analogue au diaphragme de la lumière indispensable à la réception. Kelim approprié. Ah, mais c'est très vrai ce que vous dites là. Donc, C'est les tzadikim qui savent donc filtrer la lumière et qui savent prier de telle manière que la prière devient quelque chose d'habitable, à la manière d'une maison. Et grâce à ces tzadikim, les goyim sont capables de reconnaître le créateur du monde. Alors maintenant, donc tout ça, c'est pour l'instant extrêmement chassidique. Alors souvent, quand Rabbi Nachman parle de la centralité du tzaddik, de la prière du tzaddik, alors il entend en filigrane, il entend la critique des mitnagdim. Les mitnagdim disent que c'est ces histoires de demander au tzaddik de prier. Toi, tu peux prier tout seul sans qu'on te demande, sans passer par le tzaddik. Alors, pour Rabbi Nachman, c'est une forme d'orgueil. Qui yesh ba'ale gava, parce qu'il y a des orgueilleux. She'enam rotzim she'ilchu la'tzadikim, qui ne veulent pas qu'on aille chez les tzadikim. Ve'omrim shem be'atzmam yicholim litpalel, et disent qu'eux peuvent par eux-mêmes prier. Umonim gam acherim, et empêchent les autres, que she'esh lem tzar o cholé, quand ils ont une souffrance ou un malade, les lech la tzadikim, d'aller chez les tzadikim, ils empêchent les autres également, ils convainquent les autres de ne pas le faire, de ne pas aller chez le rabbi. Alehem ne'emar, et c'est d'eux dont il est dit, Hachev eshet haish, rend la femme de cet homme. Il s'agit du rapt de Sarah par le roi Avimelech, et le roi Avimelech a une vision nocturne dans laquelle Dieu lui dit, il faut que tu rendes la femme de cet homme. Alors, c'est quoi rendre la femme de cet homme? Alors, Rabbi Nachman va expliquer que tout ça est une métaphore, Avimelech étant celui qui est orgueilleux, et Eshet, ça veut dire la prière, on va le voir, et Hachev, il faut que tu ramènes la prière chez le prophète. Kizé Abal Gaava Mechune Bilshon Avimelech, parce que l'orgueilleux est appelé Avimelech. Ah bon, pourquoi? Est-ce que cela ne contredit pas ce que dit Manitou sur l'approche mystique qu'ont les goyim envers le tzaddik de la génération qui paraît être un point négatif? Alors, c'est tout à fait vrai ce que dit Manitou. C'est-à-dire, lorsque les goyim ne reçoivent pas la direction d'Israël, alors ils ont une tendance à diviniser ou à faire de la magie avec les tzadikim. Tandis que quand ça passe par Israël, alors ça devient humain, ça devient moral. Je m'explique. Pour les goyim, par exemple, pour que Dieu soit accessible, il faut qu'il devienne un homme. Donc c'est un homme qu'ils vont diviniser. Tandis que chez les enfants d'Israël, nous savons que Dieu a une relation morale directe avec les tzadikim, sans passer par des mythes comme l'incarnation et tout le bazar. Donc je reviens ici à ce que dit Rabbi Nachman, le mot Avimelech désigne l'orgueilleux. Pourquoi? Avi leshon ratson ki hu rotze limlor. Avi veut dire vouloir. En effet, un des verbes bibliques qui veut dire vouloir, c'est ava. Par exemple, lo ava Hashem Elohecha lishmo el Bilam. Dieu n'a pas voulu entendre la malédiction de Bilam. Donc, Avi Melech, ça veut dire celui qui veut régner. Vaïnou Avi Melech. Et c'est donc Avi Melech qui behemet tzadik moshel bitfilato. Parce qu'effectivement, le tzadik est lui-même un dirigeant, possédeur du pouvoir par sa prière. Que Moshe Katouf, tzadik moshel bihirat Elohim. Ainsi qu'il dit, le tzadik est un dirigeant de la, grâce à sa crainte de Dieu. Vehu, par contre, lui, c'est-à-dire celui qui s'oppose au tzaddik, mitga'e be'atzmo, a l'orgueil de lui-même, she'yachol yitpalel v'yeshlo mimshala. Il dit, mais c'est moi qui peux prier, c'est moi qui ai le pouvoir. Valken mechune b'shem Avimelech. C'est pour ça qu'on l'appelle Avimelech, qui urotze limlor ve'omer ana imlor. Parce qu'il veut régner, il dit, c'est moi qui va régner. Donc, Avimelech, c'est le nom de l'orgueilleux. Veze perush, hachev v'chete haish. Et c'est ça que veut dire « rend la femme de cet homme ». Eshet, Rachetevot Adonai Sefata et Tiftach, c'est-à-dire les mots par lesquels on commence la prière, Zebechina Tefila, c'est-à-dire c'est la prière. Donc le mot Eshet signifie la prière. Dehainu, Hashev Eshet, c'est-à-dire il faut que tu rendes Eshet, Bechina Tefila, les Hatzadik Kinaviou. Tu dois rendre la prière à celui qui en est le spécialiste, c'est-à-dire le Tzadik, qui lui est le prophète. Et parce que Dieu a une aspiration à la prière des tzadikim. Et donc il lui envoie une prière ordonnée dans sa bouche afin de jouir de sa prière. Bon, alors là, il y a ici des notions qui sont censées être connues, mais qui ne sont pas évidentes pour tout le monde. Ce que dit ici le texte, cette histoire que Dieu a le désir de la prière des tzadikim. Alors, c'est quoi cette histoire que Dieu a le désir de la prière des tzadikim? Manitou disait, on désire des choses qui sont rares. C'est-à-dire, on ne désire pas des choses qui sont abondantes et immédiates. Si quelque chose est rare, alors il y a un désir. Ça veut donc dire que le tzadik, de par lui-même, n'a pas tendance à prier. Pourquoi? Parce que le tzadik a une tendance intellectuel à justifier ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous allez voir le tzaddik, normalement, vous lui dites « J'ai un malade à la maison », la réponse du tzaddik sera « Ah, mais c'est très bien, Baruch Hashem, donc vous avez un malade, c'est donc que Dieu veut qu'il soit malade. » Et donc, pour obliger les tzaddikim à prier, il faut, Kadosh Baruch Hu les introduit dans des situations absurdes qui vont les amener à faire la prière. Et donc, Dieu a l'aspiration pour la prière des tzadikim, à tel point même qu'il lui envoie la prière. Meshager tefila sedura befiv kedeshene mitfilato. C'est comme si Dieu lui envoyait la prière dans sa bouche. C'est-à-dire, ça ne vient pas de l'initiative du tzadik, ça vient du désir de la rencontre de Dieu avec l'homme. Et donc, il le fait prier. On peut dire qu'une certaine manière, la prière est donc une forme de prophétie. Contrairement à l'idée comme quoi la prière serait un élan qui viendrait de ce qu'on appelle le sentiment religieux. Donc ça commencerait par l'homme et l'homme s'adresse à Dieu, pas du tout. Dans la prière, c'est Dieu qui s'adresse à l'homme et la preuve que la prière a été bonne, si elle a été facile à dire, c'est l'est ordonnée. C'est dans la Guémara, on raconte que Rabbi Hanina ben Dosa, quand il priait pour les malades, savait si tel malade allait vivre ou si au contraire il allait mourir. Vous lui avez demandé comment es-tu prophète? Il fait même de la question, la question même prouve que pour la Guémara, le prophète et le priant, c'est à peu près la même chose. Et Rabbi Hanina ben Dosa a répondu non, mais je sais grâce à la manière dont la prière passe par ma bouche. Veze kinavihu. C'est ça que dit le texte de la Torah. Il faut rendre la femme à cet homme parce qu'il est prophète, c'est-à-dire ramener la prière au tzaddik. Les shom niv sefataim. Pourquoi là il dit le mot navi? Navi vient de la lèvre. Niv sefataim, la parole de la lèvre. Kemo shamru chachamenu zechonam bevracha. Comme on dit nos sages, bore niv sefataim, puisque Dieu est celui qui crée la parole des lèvres. Im shgura tefilato befiv, si la prière est facile à prononcer dans sa bouche, c'est donc qu'elle est acceptée. Veze hachev. C'est ça que veut dire ramène la prière. Hachev, rachetevot, har sadebaï. Ce sont les initiales de montagne, champ, maison. Ze remez, shetefilat tzadik ibishlemu. Cela donc nous fait comprendre que la prière du tzadik est parfaite. Shema Leota, Mikrinat Harvesadeh, Mikrinat Bait, parce qu'il est capable de la ramener de la dimension montagne et champ à la dimension maison, comme nous l'avons dit. Donc, pour amener la connaissance de Dieu chez les nations, il faut d'abord passer par la prière, mais pas par n'importe quelle prière, à la manière de Yaakov, c'est-à-dire maison, et pas se contenter de la dimension Har et Sadé, c'est-à-dire montagne et champ d'Abraham et Yitzhak, il faut passer par ce qui est, disons, apprivoisé, une prière qui devient de la maison, quoi, une prière domestique. Aval Eluaba Leagava, mais non, on revient ici donc aux orgueilleux. Les, par contre, les orgueilleux, mais Akvim Taavato chez la Shemitbara, empêche le désir de Dieu. Ve'enam Evakshim Matsadikim Shilpalelu Aleem, et ne demande pas aux Tsadikim de prier pour eux. Kichoshvim, parce qu'ils pensent, Shit Anu Visikfu et Tatsmam Uvazem Tsadikim, parce qu'ils se disent, ces orgueilleux qui empêchent d'aller chez le Tsadik, que puisqu'ils ont jeûné et qu'ils se sont mortifiés, ils sont déjà des tzadikim à cause de ça. Effectivement, vous avez des personnes qui ont de l'orgueil parce qu'ils se disent « Je suis moi-même un grand tzadik. La preuve, j'ai beaucoup jeûné et je me suis beaucoup mortifié. » Avala emet enoken, mais la vérité n'est pas cela. Ki kol ata'anitim shi'itanu, parce que tous les jeûnes qu'ils ont faits, enze elak emo sak shi'eshbo chori marbe, cela ressemble à un sac qui a beaucoup de trous. Pour chez Mérikim est à sac. Et lorsque l'on déverse ce qu'il y a dans le sac, Afalpi Ren, Nisharubo Achorim, les trous restent quand même. On ne vide pas les trous. Alors maintenant, c'est quoi cette histoire du sac et des trous? Agouf Nikra sac. Le corps est un sac. Kema Amar Atana, ainsi qu'il est dit dans la Gemara par un sage, Shinena Shre Sakar. Shinena, c'était le nom par lequel Shmuel, le Amora, désignait Rav Yehuda. Shinena veut dire l'intelligent. Alors, il dit intelligent, Shre Sakar, ouvre ta bouche. Alors, ouvre ta bouche, pour Rabbi Nachman, ça veut dire ouvre ton corps. Et donc, le corps entier est un sac, effectivement. Le corps est un réceptacle, et l'âme est le contenu. Ve'im itbonenu be'atzmam, si les orgueilleux en question s'examinaient en eux-mêmes, ayuroim achar kol ata'anitim, que même après tout leur jeûne, adayim sharu etzlam kol ta'avatam kshurim besakam, ils auraient vu que tous leurs désirs, les désirs bas, restent liés à leur sac, haïnu begoufam, à leur corps. Velo ta'avatam bilvad, nish'ar, pas seulement leur désir, leur passion reste, kashur begoufam, kim gam ta'avat aviem. Ils se rendraient compte, c'est-à-dire que non seulement leurs désirs ne sont pas éliminés par leurs jeûnes, mais également les désirs de leurs ancêtres. Ils sont restés chez eux depuis le temps où ils sont nés. Mais Hamat Shelonit Kadesh Aviv Bishatazivu, du fait que leur père ne s'est pas sanctifié au moment du rapport conjugal. Gamze Kashur, cela aussi est lié. Begufa Madaïn, dans leur corps encore. Ubevadai, Ilu Ayuroim et Kolze, et s'ils étaient capables de le voir, Harada, Gedola et Anofel Aleem, ils tomberaient dans une grande terreur. Car ils verraient comment ils sont restés à un niveau bas. C'est-à-dire, il y a des orgueilleux qui sont persuadés qu'ayant fait beaucoup d'efforts de mortification et de jeûne, ils sont persuadés qu'ils sont déjà des tzadikim. Mais en vérité, ils sont restés comme des sacs troués. Alors, où est-ce que nous avons vu tout ça? Cette idée du sac troué, c'est-à-dire le corps qui est encore entaché de tous les désirs les plus bas, y compris d'ailleurs les désirs de leur père au moment où ils ont été formés par l'acte conjugal. Vézé Pérouche, alors là, il va nous amener ici toute une interprétation de quelques versets dans Bereshit qui expriment ça de manière métaphorique. Il s'agit ici des fils de Yaakov qui reviennent d'Égypte avec leur sac, et ce fut lorsqu'ils ont vidé leur sac, ils ont trouvé chacun la bourse de son argent dans son sac. Ça veut dire, c'est-à-dire après avoir fait tous les jeûnes qui correspondent à vider le corps, c'est-à-dire le sac qui est le corps, Adain veine ish seror kaspo. Il découvre que malgré tout, il est resté la bourse d'argent. Ça veut dire quoi? Chez kashur vetsarur kaspo veta avato besako vegufo. Le mot kesef veut dire le désir. Kisoufine. Kisoufine, ce sont des languissements. Et donc, il découvre que bien qu'ayant vidé leur sac, c'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de jeûnes, eh bien, malgré tout, d'où l'expression vider son sac. Ah, génial, j'y avais même pas pensé. Et donc, veine ish seror kaspo, c'est-à-dire que ils découvrent que leurs désirs les plus bas, sont restés quand même dans leur corps. Donc, les jeûnes n'ont servi à rien. Et ils ont vu les bourses de leur argent, c'est-à-dire leurs désirs qui restent attachés, eux et leur père. C'est-à-dire, Aïnou l'odait serorot kaspem, non seulement leurs bourses d'argent, Shehuta avotatsman, qui sont leurs propres désirs, Kim gam hema vaviem, ils ont découvert également ceux de leur père. Aïnou ataavot shel aviem, c'est-à-dire les désirs de leur père, gam hema alonaflu mehem, eux aussi sont restés dans leur corps, Zeu vayiraou, et c'est pour ça qu'ils ont eu peur. Parce que la terreur est tombée sur eux, et donc là ils n'avaient plus l'orgueil et le désir de dominer. C'est-à-dire, ce que dit le Rabbi Nachman, il propose aux orgueilleux de s'examiner. Et quand ils s'examinent, ils se rendent compte que les jeûnes qu'ils ont faits n'ont servi à rien pour les empêcher, pour les débarrasser de leurs désirs les plus bas. C'est parce qu'ils n'ont pas été chez le tzaddik. Vezé perouche, et c'est ça que signifie la suite des versets là-bas, va yomer laim Yaakov aviem. C'est alors que Yaakov, leur père, leur dit, oti shikaltem, vous m'avez désenfanté. Yosef enenu vechule, Yosef n'est plus, etc. C'est quoi dans le etc. Je vais vous dire la suite du verset. Yosef enenu veshimon enenu. Yosef n'est plus, Shimon non plus. Ve Binyamin tikahu, et vous voulez prendre Binyamin, Haylai ayu kulana, tout cela me tombe dessus. Alors c'est qui Yaakov aviem? Yaakov leur père, il dit ici zeremez al tochachat hasechel. Cela fait allusion à la remontrance de l'intelligence. Ki hasechel mochiach et baalei hagaava, parce que l'intelligence fait des remontrances aux orgueilleux. Arotzim l'Idgadel, qui veulent se grandir. Puis Yaakov, car le mot Yaakov, ou Bechinat Aserhel, représente l'intelligence. Kemosh et Tirgem Unkelos, et la preuve c'est que Unkelos a traduit Vayakveni Vechakmani. Il m'a talonné, c'est-à-dire le mot Yaakov vient du mot talonné, Vechakmani, il m'a pris par sa sagesse. Donc Yaakov représente l'intelligence. Vezé Avihem, et c'est pour ça qu'on l'appelle leur père, qui av bechorma, car on est père par la sagesse. Vaïdnu, shasechel mochiachotam, mochicham veomer laem. Cela veut donc dire que l'intelligence leur fait des remontrances et leur dit, oti shikaltem, vous m'avez désenfanté. Alors, on peut comprendre, vous m'avez privé de mes enfants, mais ça peut vouloir dire également, c'est moi que vous avez perdu. Qui colle à Midgaé, parce que celui qui s'enorgueillit, Chochmato mistaleket mimenu, sa sagesse le quitte. C'est-à-dire, puisque vous êtes des orgueilleux, moi qui suis votre intelligence, vous m'avez perdu. Yosef enenu. Yosef n'est pas là. Ça veut dire quoi, Yosef? Zebichinat tikkun ameuvat. Yosef représente la capacité de réparer ce qui a été tordu. Aïnou, ce que cela veut dire, adain lotikantem ameuvat. Et ça veut donc dire que vous n'avez pas réparé ce qui est tordu. Shu le herpa ul kalon, ce qui est votre honte. Veyesh lachem leitbayesh mechamato, vous devriez en avoir honte. Kitikun ameuvat ou bechinat Yosef. Parce que réparer ce qui est tordu, c'est ça qu'on appelle Yosef, al-Shem, ainsi qu'il est dit. Asaf Elohim et Herpati, Dieu a caché ma honte lors de la naissance de Yosef. Donc, Yosef n'est plus, c'est-à-dire vous êtes incapable ou en tout cas vous ne voulez pas réparer votre torsion. Veshimon enenu, et vous n'êtes pas, il manque également Shimon. C'est quoi Shimon? C'est la capacité de faire des remontrances. On va voir tout de suite pourquoi. Haynu al yede she'en lecha bechinat Yosef, en lecha bechinat Shimon. Si tu n'as pas la volonté, tu n'as pas la dimension Yosef, c'est-à-dire que tu ne veux pas réparer ce qui est tordu, alors tu n'as pas non plus la dimension Shimon. C'est quoi Shimon? Il va nous dire, j'anticipe, je veux dire la capacité de se faire des remontrances. Vishimon ou Bechinat Kishama Hashem Kisenoa Anochi, c'est parce que Shimon est appelé du fait que, c'est ce qu'a dit Léa, Dieu a entendu que je suis mal aimé. Kiata en chasanu, parce que tu n'es pas, celui qui est orgueilleux n'est pas détesté. Or, être détesté est une bonne chose, parce que quand on est détesté, c'est parce qu'on fait des remontrances aux autres. Parce que du fait que tu ne t'es pas réparé, donc tu ne peux pas faire des remontrances aux autres, car ils te diront, répare-toi toi-même d'abord. C'est pour ça que tu n'es pas mal aimé, parce que celui qui fait des remontrances, c'est lui qui est mal aimé. Comme ont dit les sages, un maître en Torah qui est aimé par sa communauté, là, Mishum de Mal est fait. Ce n'est pas parce qu'il fait des bonnes choses. Et la Mishum de la Mochach Leoubimiedishmaya, c'est parce qu'il ne leur fait pas de remontrance à propos des choses célestes. Nimtsa chez Amochach Husanu. Cela veut donc dire que celui qui fait des remontrances, c'est celui qui est mal aimé. C'est-à-dire, être mal aimé est une bonne chose. Mais ça veut dire, parce qu'être mal aimé, ça veut dire qu'on a la capacité de réparer les autres. Mais quand on est soi-même orgueilleux et qu'on n'a pas donc la capacité de réparer ce qui est tordu, ce qu'on appelle Yosef, on n'a pas non plus la capacité d'être Shimon, c'est-à-dire de faire des remontrances aux autres et de les rééduquer. Ved Binyamin Tikahu. Et vous prendriez Binyamin, si quoi Binyamin, Zemore al-Gadlout, c'est la grandeur. C'est-à-dire, si vous n'êtes ni comme Yosef, ni comme Shimon, vous n'avez pas le droit d'aspirer à la grandeur. La grandeur, c'est, on a vu que c'était le tzaddik qui est capable par sa prière d'être grand et d'amener la grandeur de Dieu sur terre. Où est-ce qu'on a vu que Binyamin signifie la grandeur? Qui purech rashi Binyamin, al-Shem eret Israël. Que Binyamin est appelé à cause de son nom, à cause d'Eret Israël, Ben Yamin, fils du sud. Or, Eret Israël est au sud de Haran. C'est la raison pour laquelle Binyamin apporte ce nom. Or, Eret Israël, Hugavoa Mikola Aratzot, est plus grand que, est plus élevé que tous les pays. Donc, ça veut dire que c'est Binyamin qui porte le nom d'Eret Israël, qui est la terre la plus élevée du monde. Ça veut donc dire s'approprier Binyamin, cela veut dire s'arroger la grandeur. Ve'aynu, c'est-à-dire, lo daishen lachem kol abichinot alalu, non seulement vous n'avez pas Yosef et Shimon, im kol ze ve'et binyamin tikahu, vous prenez binyamin, she'atem lokrim latzmechem gadlut, parce que vous vous prétendez possesseur de la grandeur. Possesseur de la grandeur. Ve'aynu, desiem aserel amochiach otam, et c'est comme ça que finit par ces paroles, l'intelligence qui leur fait des remontrances, alai hayu kulana, tout cela est tombé sur moi, qui a kol nofel alai, parce que tout tombe sur moi, qui kol amit gae, chormato mistaleket menu, parce que celui qui s'enorgueillit, sa sagesse le quitte. Donc, en fait, c'est toute une polémique, en fait, en filigrane de Rabbi Nachman, que on ne peut avoir un rayonnement universel que si on est capable de faire la prière de la manière de la maison et pas de la montagne et du champ, et que c'est pour ça qu'il faut aller chez les tzadikim et que les orgueilleux empêchent tout cela. Les orgueilleux, ce sont ceux qui disent qu'il ne faut pas aller demander aux tzadik de prier. Ve'aetza yutza levatel agava shia avodazara. Et le conseil qui est recommandé pour annuler l'orgueil, qui est en soi idolâtrie. Que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, Toavat Hashem Kol Gevalev, c'est l'abomination de Dieu, tous ceux qui sont orgueilleux. Haïka ou Alidei Karvut la Tzadikim, l'essentiel est en se rapprochant des Tzadikim, Kamuva Batikunim, ainsi qu'il est dit dans les Tikunim, dans le Tikuné Azoar, Bitroa, des Uruha, et Avir El Acher. Par la sonnerie du chauffard, qui est le souffle, disparaît l'autre Dieu. L'autre Dieu, c'est-à-dire l'orgueil. Et l'esprit, le souffle, c'est le tzaddik. Le tzaddik ou bechinat rucha, parce que le tzaddik est un souffle. Que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, Ish Asher Ruach Bo, à propos de Josué, c'est un homme qui possède un souffle, un esprit. Ve'aliado, Michna Ruach Gevoa, et c'est comme ça que grâce à lui se soumet l'esprit de hauteur et l'acher qui est l'autre Dieu, et le mot acher qui veut dire l'autre devient le mot echad. C'est-à-dire, vous avez remarqué que le mot acher et le mot echad, c'est presque le même mot, aleph et chet dans les deux, et le resh peut devenir un dalet. C'est-à-dire, resh, c'est une lettre ronde, tandis que echad est une lettre carré. C'est-à-dire, quand on est dans le rond, on est dans le cycle de la nature qui entraîne l'orgueil, tandis que Echad, c'est qu'on a rajouté quelque chose à la nature. C'est-à-dire que le Dalet, le Resh, a reçu un petit supplément en haut à droite, qui ou Kotsa des hautes Dalet, parce qu'il est l'épine de la lettre Dalet. Shemimenu, Arbaruchot, d'où viennent les quatre coins, ou les quatre souffles. Que Moshe Katouv, Kohamar Hashem, ainsi qu'il dit, ainsi parle l'Éternel, mais Arba Ruchot Boi Aruach, des quatre coins vient vent. Vezé Leshon Teroa, et c'est ça que signifie le mot Teroa, la sonnerie, Leshon Teroaem de Shevet Barzel, qui veut dire brise-le par une verge de fer, qui ou Meshaber Ruach Gevoa, El Acher Kefirot. Parce que c'est comme ça que l'on brise le souffle d'orgueil, l'autre Dieu, la négation, l'hérésie. Donc, ce que nous dit ici Rabbi Nachman, il faut aller chez le tzaddik. Tout cela n'est-il pas en contradiction avec le fait que pris en Nidbo des doutes avec ses propres mots, avec ses mots, sans se relier à la prière du tzaddik Navi, sage de la grande assemblée ou les Mekoubalim de notre génération? Non, ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses qu'il faut faire. Il faut d'une part aller chez le tzaddik et se lier au tzaddik. Il faut d'autre part faire sa propre prière. Ce sont deux choses différentes, mais qui sont évidemment liées l'une à l'autre. On ne peut pas se contenter de l'un sans l'autre. Veze bechinat. Et c'est ça que signifie Rikudin ve'amchat kaf, les danses et frapper des mains, dont il a été question tout à l'heure. Alors maintenant, on va voir quel est le rapport entre le fait d'aller chez le tzaddik et d'influencer les nations et la prière. Tout cela est lié maintenant à Rikudin ve'amchat kaf, c'est-à-dire les danses et le frapper des mains. Kirikudin b'amchad kaf nimshachim mibrinat aruach shebalev kanire bechush, parce que la danse et frapper des mains viennent du souffle qui est dans le cœur, comme on peut le ressentir de manière sensible. Ki aliede simchat alev umeraked umake kafal kaf, parce que c'est par la joie du cœur que l'on danse et que l'on frappe des mains. Alors, c'est comme il est dit dans les tikkunim. Alors, vous remarquez que pour Rabbi Nachman, il y a du psychosomatique à bloc. C'est-à-dire, si vous êtes capable de danser et de frapper des mains, c'est que vous êtes habité par un souffle. Ce n'est pas, disons, du technique, du pragmatique. C'est quelque chose qui vient d'un sentiment intérieur. Vehai ruha. Nashiv b'shit pirkin des droits ou b'shit pirkin des shokin. Comme dit dans le Tikkunim, ce souffle cet esprit souffle dans les six parties des mains et dans les six parties des pieds. C'est-à-dire, si vous avez un bras, alors vous avez la main, le bras et l'avant-bras. Non, le bras, l'avant-bras et la main. Ça fait trois. Ça, c'est pour la main de droite. La main de gauche, ça fait donc six. De même pour la cuisse, la jambe et le pied. Ça vous fait également six. Donc, le souffle se manifeste dans les six parties des mains, des bras, et dans les six parties des jambes. Vibrinat, amchat kaf, ubrinat ki jerikudin. Et ça, c'est ce dont il est dit, frapper des mains et danser. C'est-à-dire, vous avez, quand vous frappez des mains, vous dansez, vous mettez en action les 12 parties des membres qui s'étendent en dehors du corps. Vezebrinat, libo nasa et raglat. Et c'est ça que signifie son cœur a élevé ses pieds. Aïnou, aliédé à rouar chebalev, baï marikoudin, parce que par le souffle qui est dans le cœur, viennent les danses. Aïnou, aliédé à tzadik, chobichinat rouar, c'est-à-dire grâce au tzadik, qui est lui-même le souffle. Nidbatel aga vakanal, c'est comme ça qu'on annule l'orgueil, que moshe katou, ainsi qu'il est dit, altevoeni regel gaava, que ne me vienne pas un pied d'orgueil. Venit Batel à Avodat Elilim, et c'est comme ça que s'annule l'idolâtrie. Kemo Shekatou, ainsi qu'il est dit, Rahatsur Aglechem, lavez vos pieds, Ze Avodat Elilim. C'est-à-dire, d'après les Chachamim, quand Avraham a dit à ses invités de laver leurs pieds, c'est-à-dire de se débarrasser de l'idolâtrie. Urshenit Allah, Raglain Alide Arikudim, et lorsque les pieds s'élèvent grâce à la danse, Bechinat nasa libo et raglav, comme on a dit que le cœur soulève les pieds, venit batel agaava, et que cela supprime l'orgueil, aïnou avodazara qui est l'idolâtrie, aledezen imtakin adinim, c'est comme ça que sont adoucies les rigueurs, qui kol zeman shesh avodazara baolam, charonav baolam, parce que tant qu'il y a de l'idolâtrie dans le monde, il y a de la colère dans le monde. Et lorsque disparaît l'idolâtrie, nitaber acharon af, disparaît la colère, et nimshachim chassadim, et arrive à nous de la grâce. Et c'est alors que les pieds, hem bufrinat ragle chassidav, deviennent les pieds de ces chassidim. Alors chassidim ici, aïnou bufrinat chassadim, c'est-à-dire la bonté. Haïnou Bichinat Chazdé David Anéemanim, qui est la grâce de David, qui est fidèle, Anéemanim Daïka. En quoi c'est fidèle? Kinit Baklou Aminut Vakfirot, parce que cela fait disparaître l'hérésie et la mécréance. Alors nous avons ici deux petites notes. C'est comme la danse de David critiquée par sa femme. Oui, c'est vrai. Il y a-t-il un rapport avec les 12 tribus? Bon, certainement, 12 et 12, on ne peut pas quand même en faire abstraction. Donc, il y a certainement un rapport. Parce que vous rappelez que les 12 tribus, dans le texte que nous avons étudié la semaine dernière, ça veut dire la prière. Parce que la prière passe par les 12 portes dans le ciel qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. Et c'est également ce que l'on... Alors là, il a parlé des jambes, maintenant il a parlé des bras. C'est donc ça, ça ressemble également à la frapper des mains, qui a l'idée à rouar nidgala et à ratayadaim, parce que par le souffle se révèle la lumière des mains. Que Moshe Katou, ainsi qu'il est dit, kol dodi dofek, la voix de mon bien-aimé qui frappe à la porte, dofek bechinat arouar kamuva batikunim. Le mot dofek, qui veut dire frapper, veut dire également la pulsation. Cela signifie le souffle, comme il est dit dans le tikkunim, le samichle, or il est dit juste après, Dodi shalach yado minachor, mon bien-aimé a envoyé sa main de par la lucarne. Zebichinat idgalut yarat haedaim, c'est la révélation de la lumière des mains. Haynu bichinat amchad kaf, c'est-à-dire frapper des mains. C'est comme ça que disparaît l'idolâtrie et les mécréances. Et c'est pour ça qu'on dit ses mains furent la foi. Vayi Yadav Emuna, il s'agit de Moshe lorsqu'il lève les mains lors de la guerre d'Amalek. Nimtza, donc il ressort de tout cela. Que grâce au tzadik qui est le souffle qui est dans le cœur se révèle la lumière des mains et des pieds. C'est-à-dire les danses et frapper des mains. Et donc disparaissent l'orgueil et l'hérésie et que la foi devient abondante. C'est alors que s'accomplit le verset, mon pied se tient avec droiture, c'est-à-dire, c'est une manière de dire la emuna, la foi, qui a minut iprinat natayu raglai, parce que quand on dit l'hérésie, c'est comme quand on dit mes pieds ont flanché. Kemahamar Asaf kimat natayu raglai, comme Asaf le disait, mes pieds ont presque flanché. Sheneemar shamalshi si odibo les minut. Parce qu'il est dit, c'est dit quand son cœur l'a amené à l'hérésie, Kamevoar Sham, ainsi qu'il est clair de là-bas, Veragli Amdami Mishor, et quand mon pied se tient fermement, More al Emuna, cela veut dire j'ai la foi. Vaz Nitkayem Vahi Yadav Emuna, et c'est de là où on dit ses mains furent la foi. Alors, tout ça, c'était pour la danse et pour la joie, tout ça, c'est au niveau sentimental. Maintenant, ce que je vous ai dit à l'avance déjà, c'est que également la Torah amène à toutes ces bénédictions dont nous avons parlé. Vea Torah igam ken bichinat yadai viraglai. La Torah aussi, c'est une forme de main et de pied. Ah bon? Qu'est-ce qui est main? Qu'est-ce qui est pied dans la Torah? Kiesh ba Torah nigle venistar. La Torah est faite de quelque chose, d'une partie révélée, d'une partie cachée. Niglé ou prinat yadaim. Quand on dit la partie révélée, ça, c'est comme les mains. Effectivement, les mains sont toujours visibles. Kemo shekatur, ainsi qu'il est dit, Dodi shalach yado minachor, mon bien-aimé a envoyé sa main par la lucarne. Hor veut dire la lucarne, c'est également la liberté. Minachor, aynu harut al aluchot shubu niglé. C'est-à-dire ce qui est gravé, hor, ça vient uniquement du mot harut, qui veut dire gravé sur les tables de la loi, qui est ce qui est révélé. Venistar, embechinot raglaim, et la partie cachée, ce sont les pieds. Kemahamah hachamenu, zichonam livracha, hamuke yerechair, comme les sages ont dit à propos du verset, ce que cache tes cuisses, ma yarech baseter, la cuisse est cachée. Et donc, ça veut dire qu'il y a dans la Torah deux parties. Une partie révélée, les mains, et une partie cachée, c'est les jambes. Uchlaliyut à Torah nikra lev, et l'ensemble de la Torah est appelé le cœur. Shematrelet bebet ou mesayemet belamet, parce qu'elle commence par un bet, en Bereshit, ou mesayemet belamet, Israël, ça finit par la lettre lamet, shesham mishkan aruar. Parce que dans le cœur réside le souffle des nashiv. Veshit pirkin de droin, veshit pirkin de raglaïn, haïnu venigle, ou venistar, parce que ça souffle à travers les six parties des bras et les six parties des jambes, c'est-à-dire dans la partie cachée et dans la partie révélée, dans la partie cachée. Veze bichinat, et c'est ça qui correspond à Mordechai ve Esther ve Haman bichinat purim, sheou, Goral Sheipil Haman Bechinat Omer Seorim. Et là, c'est donc en rapport tout cela, tout ce que nous avons dit, en rapport direct avec Mordechai, Esther, Haman et Purim, qui est le sort que Haman a fait tomber et qui ressemble à une gerbe d'orge. Alors tout ça, c'est un développement de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent et que nous allons développer Bezrat Hashem la prochaine fois. Shalom à tout le monde. Ouf.
J'ai une question.
Oui, allez-y.
Alors, j'ai un peu perdu là entre le klal et le prat. Quand on va voir le tzaddik, c'est pour s'aider soi-même.
Oui.
Mais est-ce qu'on ne dérange pas le tzaddik qui est censé aider le klal?
C'est son travail. Hein.
C'est ça. Ok, il y a une question. Il y a une autre question de Rabbin Messan. De Rabbin Messan.
Allez-y, Rabbin Messan.
Et là, quand c'est qu'avoir arabe, enfin, pratiquement ou réellement, comment on peut ramener la prière qui est dans une dimension rare, montagne ou champ, à une dimension de maison?
Oui, il dit, bah, c'est grâce à grâce au tzaddik. C'est-à-dire en allant chez le tzaddik, lui, a l'habitude, on peut dire que pour lui, la prière fait partie de sa vie domestique. Et donc, c'est par le rayonnement de la personnalité du tzaddik que l'on en est capable.
Quand on a cité Beth tout à l'heure et que j'ai fait allusion à ce qui est dit dans Maud 13, 19, verset 3 là-bas, que Rachid dit c'est la femme, est-ce que Israël a un rôle à jouer en tant que femme dans l'éducation des nations?
En tant que femme, ça se passe parfois comme ça dans l'exil. Par exemple, vous avez l'exemple de la reine Esther, qui est une princesse qui va agir parmi les nations et qui est livrée aux nations. De manière générale, il est préférable que ce soit le contraire, que la dimension femme soit celle des nations. Mais parfois, il y a des inversements.